Moi, je suis 32, je suis pas au 14 oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est lui qui m'a dit, au fait, en gras, je pense qu'on peut, en combinant les deux, peut-être de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange de paroles aux auditeurs. Dans son rapport 2015 rendu public le 18 avril dernier, l'ONG Transparency International déplore la faiblesse du contrôle parlementaire dans la gestion du secteur de la défense et sécurité en Afrique et en RDC. Selon cette ONG britannique, cette situation entraîne une diminution des capacités institutionnelles des forces armées et d'autres services de défense et favorise ainsi la corruption. Certains observateurs estiment que cette situation serait à la base de la persistance des cas d'insécurité et d'instabilité dans le pays. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour intervenir en direct. Alain Goy est à la mise en œuvre de ces programmes réalisés et coordonnés par J.R. Lungembo. Julie Fesabongonda est au standard et sur la page Facebook. Pierrot et la Mégie a le réel plaisir de vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Fabouzangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Et pour échanger, nous avons associé à cette émission honorable Juvenal Mounoubo Moubi. Vous êtes rapporteur de la commission, la sous-commission Forces armées au sein de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc député national élu de la circonscription électorale de Walikale. Honorable Juvenal, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs, des paroles aux auditeurs. Et merci pour cette interaction entre l'élu et les députés et la population.
Et la population. Et voilà. Et nous sommes partis de ces rapports de Transparency International qui estiment que c'est d'abord un rapport qui concerne l'Afrique, mais aussi une particularité pour la RDC. On sait que dans beaucoup de pays africains, il y a une faiblesse des contrôles parlementaires en ce qui concerne la gestion du secteur des défenses et des sécurités. Cela veut dire on parvient pas à tracer les budgets, comment la passation des marchés, les problèmes des budgets, et tout ça a comme conséquence des cas de corruption, mais aussi l'efficacité de services et défense sur terrain. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette étude de Transparency International?
Bon, avant d'arriver à l'étude proprement dite, je crois qu'il faut tout d'abord rappeler ici les rôles du député rapidement, c'est de voter des lois, y compris des lois en rapport avec les secteurs de sécurité, et de contrôler également le gouvernement dans tous les secteurs, y compris les secteurs de sécurité, raison pour laquelle le gouvernement est responsable de ses actes, de ses actions devant l'Assemblée nationale. Et autre chose qu'il faut dire, c'est que le secteur de sécurité est composé de l'armée, de la police, des services de renseignement, comme l'ANR ici, l'immigration aussi. La protection civile, c'est un aspect important du secteur de sécurité. La justice, les prisons, tout ça, ça fait partie du secteur de sécurité, d'une façon beaucoup plus large. La vérité, c'est que ce n'est pas facile d'exercer un contrôle en matière de secteur de sécurité. D'abord, c'est un secteur qui demande des moyens, et c'est pas toujours évident que les États allouent des moyens qu'il faut. C'est le cas pour notre pays. Il n'y a pas assez d'argent qu'on donne à l'armée. Et celui qui a la charge de mobiliser les fonds, c'est le gouvernement. On en parlera, et je vous dirai qu'il manque une loi importante, par exemple, une planification en termes de dépenses, d'investissement et de fonctionnement de nos forces armées. Pour réformer l'armée, il faut ces dispositifs qu'on appelle loi de programmation militaire. Il y a un autre obstacle qu'il faut relever d'entrée de jeu, c'est le secret défense. Dans plusieurs pays, surtout des pays de l'Afrique subsaharienne, la question sécuritaire elle est jugée, considérée comme sensible. Même pour les députés membres d'une commission spécialisée comme celle de défense et sécurité, c'est pas toujours évident que des actions initiées par les membres de cette commission, c'est pas toujours évident que ces actions-là passent comme des lettres à la poste. Il faut savoir que c'est des questions sur lesquelles, lorsqu'on apprend qu'il y a une initiative, on apprend par exemple qu'un député veut interpeller le ministre de la Défense. Moi, j'ai déjà subi cela. Je voulais interpeller en 2014 le ministre de la Défense pour qu'il nous fasse le point de la réforme sur la réforme de l'armée, mais mon initiative a été bloquée. Pourquoi ? Parce que dans une séance à huis clos, parce qu'il fallait d'abord étudier l'opportunité de ma démarche en huis clos. Et en huis clos, il y a les collègues de la majorité présidentielle qui se sont levés pour dire que non, le ministre de la Défense ne devrait pas répondre de la gestion du consecteur devant l'Assemblée nationale. Donc, il y a des blocages comme ça. Des questions de défense, tout le monde a peur, ou on a peur de celui qui le soulève. Mm-hmm. On pense peut-être qu'il va soulever tous les secrets d'État. Je voudrais dire ici que l'objectif, quand on mène une action de contrôle parlementaire en matière de sécurité, ce n'est pas de porter à découvert ou sur la place publique tous les secrets qu'il y a en matière de l'armée. Dans tous les pays, aux États-Unis, en France, partout ailleurs, il y a toujours les caractères secrets de l'armée qu'on préserve. Mm-hmm. Mais il y a des choses qui doivent être dites, hein, par exemple l'allocation, les dépenses, comment l'argent a été utilisé, hein, quels sont les programmes pour changer l'image de nos forces armées, pour motiver les militaires. Il y a des choses qui doivent être dites, même si ça ne relève pas des plans, des stratégies militaires ou de la
politique. Et d'ailleurs, Transparence internationale insiste beaucoup sur ça. Le fait qu'on n'ait pas cette collaboration facile entre l'exécutif et les législatifs autour de ces questions, par conséquent, ça favorise la corruption dans la passation des marchés, l'opacité dans la gestion du budget, dans l'acquisition des équipements. Et par conséquent, et il dit que Transparence internationale se rend compte que ça rend plus inefficace les forces sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui agissent en électron libre, et la conséquence, dans beaucoup des pays africains, que ce soit en RDC, selon ce rapport, c'est qu'il y a une persistance des cas d'insécurité dû au fait que les institutions qui doivent travailler sur le terrain ne sont pas assez efficaces dans leur capacité par manque de cette collaboration entre le législatif et l'exécutif autour de ces questions.
Oui, justement, parce que le gouvernement se trouve de moins en moins surveillé en matière de sécurité. De moins en moins surveillé. Et donc, ça pourrait faciliter pas mal de choses. Donc, je sais que Transparency International, c'est une organisation crédible qui a plusieurs années d'expérience en matière de monitoring, lutte contre la corruption et qui produit des rapports de qualité. Et donc, si Transparency International fait un tel constat, il y a lieu quand même d'écouter. Il y a lieu quand même de lire et de relire et de chercher à comprendre ce qui se passe. Donc, en fait, le secret, les caractères qu'on souligne très souvent ici, des secrets défense, cela est souligné même au sein des assemblées délibérantes comme chez nous, ça fait effectivement que le gouvernement se trouve un peu soustrait du contrôle strict par les élus du peuple de l'Assemblée nationale. Et dans ces cas-là, ça va être difficile de se rendre compte s'il y a des progrès ou pas. Je vous parlais de la loi de programmation qui n'est toujours pas prise, qui n'est toujours pas déposée, ce projet de loi à l'Assemblée, pour que nous l'examinions et nous puissions le voter, la voter. Il y a autre chose, le suivi de la réforme. Le suivi de l'armée, ça reste encore un suivi par un comité presque entièrement composé des militaires, quoi. Un comité qui n'est pas ouvert. Donc on aurait voulu aussi qu'en termes de suivi de la réforme de l'armée, que la société civile, par exemple, participe dans les...
Et d'ailleurs, dans le rythme politique, c'est ce qui est transparent, si souhaite qu'on puisse associer l'opinion de la société civile dans toutes les différentes réformes, dans la gestion, dans les enquêtes qui doivent être menées pour savoir comment on doit mener la politique dans ce domaine. On va revenir à vous le temps d'écouter aussi les auditeurs, parce qu'ils sont nombreux qui nous ont contactés pour intervenir dans cette émission. Alain est à Kinshasa, Richard à Ouvira, Cyril à Bandundu, 081-800-7345, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais n'oubliez pas aussi que les débats, c'est sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse chinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le maire de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Tapimé le Congo à la une.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Alain, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Vous avez suivi Transparence qui s'inquiète un peu par rapport à qui estime qu'il y a eu une faiblesse des contrôles parlementaires dans le domaine de défense et sécurité dans beaucoup des pays africains, RDC particulièrement, et cela a comme conséquence l'opacité des fois des cas de corruption, mais aussi l'inefficacité des services sur terrain dans la lutte efficace contre les sécurités. Quel est votre point de vue?
Oui, comme l'a dit d'ailleurs le député, il y a un sérieux problème. Si nous prenons en termes d'efficacité, de l'efficience même de l'action de l'armée, eh bien on s'en rendra compte qu'il y a une volonté manifeste à mieux faire. Mais malheureusement, la méthodologie ou le mode opératoire pose problème. Nous avons plus de 9400 km de frontières avec pratiquement 9 pays. C'est-à-dire nous devons avoir une armée forte en mesure de dissuader et même de persuader pour que nous arrivions à avoir une sécurité. Mais l'armée en soi n'est pas un fait isolé, n'est pas quelque chose qui est supra-institutionnel. C'est une organisation au sein de l'État. C'est-à-dire, si nous devons traiter des questions sur l'armée, bien que c'est un secteur assez sensible, mais au moins les fondamentaux doivent être débattus au niveau du Parlement. Uh-huh. Toutes les autres questions doivent aussi être débattues. Mais on doit maintenant faire la part des choses. Ces secteurs sensibles de l'armée doivent être débattus en huis clos pour permettre à ce que la représentation de la population puisse avoir une idée sur ce qui s'est fait.
Mm-hmm.
Parce que le gouvernement est une émanation du Parlement. Donc tout ce que le gouvernement fait, le Parlement doit être informé parce que c'est le Parlement qui permet à ce qu'il y ait cette réforme sur le plan, sur le plan légal, sur le plan de droit, c'est le Parlement qui donne les outils. Mais si le gouvernement s'accapare les enjeux ou la fonction même de l'armée, eh bien ça pose problème parce que l'armée a été mise en place pour la population et par la population.
Mm-hmm.
Il y a une institution constitutionnelle qui consacre l'existence même de l'armée. Et maintenant, si on dit qu'il y a des questions que le parlementaire ne peut pas... Non. Quelque part, il y a un problème de conception. Moi, je voudrais proposer à ce que nous arrivions à poser toutes les questions essentielles que la représentation nationale puisse poser toutes les questions essentielles pour que nous arrivions à avoir une vision sur l'armée.
Mmh.
Que nous mettions en place une politique qui va, n'est-ce pas, soutenir l'existence même de cette armée. Tenez, vous prenez en termes d'armement. C'est le budget qui doit être voté par les députés. Ils doivent savoir pourquoi on doit acheter ces armes, comment ça doit être géré, qui doit aller acheter. Ce sont des questions que le parlementaire doit avoir l'idée pour savoir évaluer à la fin.
Mm-hmm.
Vous prenez en termes de la mobilisation de la population pour intégrer l'armée, c'est-à-dire en termes de recrutement. Ce sont les parlementaires qui doivent être associés. Si vous prenez en termes de gestion même des ambitions des militaires, par rapport à leur promotion, par rapport à leur vécu quotidien, c'est-à-dire leur manière de vivre, là où ils doivent dormir, ça doit être débattu par les députés. Et les députés aussi doivent faire preuve d'une certaine maturité pour savoir que cette question... C'est une question sensible que je ne peux pas dire à la télévision. Telle autre question, ce sont des questions que nous pouvons dire à la population pour la stimuler et l'amener à accompagner la réforme. Malheureusement, si vous vous souvenez, après Saint-City, il y a eu ce qu'on a appelé le brassage. C'est-à-dire qu'on a pris des gens qui sont venus d'ailleurs, qui n'ont pas suivi une formation voulue par l'exigence des académies militaires, qui ont intégré cette armée. Et la conséquence, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de symbiose au niveau de l'armée. C'est-à-dire, chacun d'eux réfléchit selon leur regroupement politique ou militaire qu'ils ont créé pendant la rébellion. Mais aujourd'hui, nous devons avoir une vision commune. Et cette vision doit être couchée sur papier. C'est-à-dire, on doit réglementer l'armée pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à avoir une armée forte. Donc moi, je m'inscris en faux que le gouvernement arrive à monopoliser ou carrément à créer un monopole unique ou un monopole sur les questions relevant de l'armée, d'autant plus que l'armée, ça fait partie de la vie nationale.
Mmh.
Et donc, la représentation de la population doit en être informée et participer. Pourquoi la commission de
défense et sécurité
du Parlement ne prend pas part à des questions essentielles de l'armée?
Mmh.
Donc, quelque part, c'est incompréhensible. Nous devons avoir une représentation parce que cette armée, c'est à nous qu'elle revient.
Mm-hmm.
Ce n'est pas au gouvernement. Que ce soit le gouvernement, que ce soit l'armée, que ce soit le parlementaire, résulte où sont de notre émanation. C'est-à-dire, c'est notre volonté. C'est nous qui avons donné l'existence à l'armée et au Parlement. Nous devons être informés, même pas directement, mais au moins par nos représentants.
Merci beaucoup, Alain. C'est ce que vous avez dit, c'est important. D'ailleurs, vous avez rejoint notre ami Jean-Marie Chibana qui est avec nous sur la page Facebook. Il estime effectivement, en évoquant les cas de brassage par exemple aujourd'hui, et il estime que on doit avoir une politique, une conception de la politique claire, hein, qui doit être débattue. C'est ce que Transparency International propose en disant qu'il faut élaborer une politique claire qui doit être débattue au sein de l'Assemblée, mais en y associant aussi la société civile, parce que l'armée, c'est l'émanation même de la population, et c'est de cette façon qu'on peut avoir des services de défense plus stables, mais aussi plus aptes sur terrain. Mais pour vous, Alain, il faut changer tout simplement la conception, que ce soit du côté de députés, que ce soit du côté de l'exécutif. Merci beaucoup. Richard, vous êtes à Ouvira, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour, Richard.
Bonjour, monsieur. C'est hier.
Oui, pourriez-vous arrêter votre poste récepteur, Richard, et puis on va continuer l'échange. Vous nous avez écrit, d'ailleurs, sur la page Facebook, je crois bien, de Paroles aux auditeurs, ou bien vous estimez que les députés de la majorité, aujourd'hui, essaient de l'opposition. Ceux de la majorité pensent comment conserver les, comment aller dans les glissements. Ceux de l'opposition, comment contourner et d'autres choses qui sont liées à la sécurité. Ça ne peut pas faire avancer aujourd'hui les gens. C'est-à-dire que pour vous, vous estimez que la faiblesse du contrôle parlementaire est liée aussi au fait que les gens sont plus préoccupés par des questions de conservation de pouvoir, des questions politiques, que ce qui peut faire avancer le pays, Richard.
Oui, justement, M. J.R. Longembo, ce que vous allez savoir, aujourd'hui, on a mis tous les compteurs à zéro à l'RDC. Alors, sur le plan sécuritaire, même les députés, les gouvernements ne pensent qu'à autre chose qu'est l'églissement. Donc, ils pensent comment ils doivent obtenir l'églissement. Ils ont oublié les choses importantes qui peuvent aider la République, qui peuvent aider le peuple. Maintenant, celui qui est devenu et celui qui sécurise aujourd'hui le gouvernement ou la population ou l'État congolais, c'est celui qui refuse, par exemple, les dialogues, celui qui refuse qu'il faut défaire les élections à temps prévues par la Constitution. Mais aussi, les députés de l'opposition aussi ne veulent pas s'approcher à la population, savoir les problèmes de la population, comment aussi faire pour que l'insécurité ne soit pas régnée à l'aide de ceux, ils ne peuvent pas donner aussi des rapports du fait que tout le monde ne voit que le pouvoir. Ils sont en train de voir seulement comment est-ce qu'ils peuvent aussi obtenir le pouvoir. Ils arrivent même à refuser les propositions du gouvernement parce qu'ils veulent toujours aussi comment à nos élections, parce qu'ils ont estimé que la majorité a déjà perdu la crédibilité à la population. Si aujourd'hui ils obtiennent ces élections, ils pourront les gagner et ils oublient qu'il y a aussi l'insécurité qui a gâché la
population. Et là, Richard, vous estimez que cette question de la faiblesse du contrôle parlementaire, c'est dû aussi au fait que les politiques, qu'ils soient les députés de la majorité ou de l'opposition, tout le monde les vise qu'une chose, c'est soit accéder au pouvoir exécutif, soit conserver celui qu'on a, les politiciens nous ont toujours dit. Que l'objectif, c'est de conserver le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Alors, vous estimez qu'aujourd'hui, tout le monde tourne autour soit de la conservation du pouvoir, soit de l'accession, et que cette question de contrôle parlementaire dans les domaines de défense et sécurité devient reléguée au second plan, et chacun vise plus le pouvoir. Merci beaucoup, Richard, de nous avoir appelé d'Ouvira. Cyril, vous êtes à Bandundu. Bonjour, Cyril.
Bonjour.
Il y a tout moyen que vous puissiez arrêter, s'il vous plaît.
Bonjour, Cyril. Bonjour à notre invité, l'honorable Juvenal Lomonoubwe, que je respecte beaucoup.
Vous avez arrêté,
je suis en train de partir par une analyse simple, parce que moi j'aime bien analyser au cours de chaque émission. On parle de la faiblesse du contrôle parlementaire dans le secteur de défense et sécurité. L'estimation positive ou négative sur l'étude de Transparency International. Monsieur Jedi, pourquoi une aperçue particulièrement négative sur son propre pays? Évitons des procès d'intention. Vous savez, hein, est-ce qu'il y a un problème sur la stabilité de notre armée? Est-ce que la question de la défense et sécurité pose problème dans notre pays? il n'a pas une faiblesse, monsieur. Je vais vous démontrer que de temps en temps, monsieur Juvénal est témoin, il est à l'Assemblée nationale. Il est un député national, il est dans la commission de défense et sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas eu une multiplicité d'interpellations du ministre de défense? On a vu à la télé, bien que nous ne sommes pas au sein de l'Assemblée nationale, mais on a vu à la télé le ministre de la défense, plutôt, oui, de la défense, est passé en maître maîtrise et répondre aux questions préoccupantes des députés nationaux. Vous savez, messieurs les journalistes, le secret de défense et sécurité, comme l'a dit l'honorable Juvénal Mounoboué. Il y a des questions qui doivent être traitées asymétriquement et disproportionnellement. Parce qu'il y a des traits au niveau d'une interpellation à l'Assemblée nationale qui, curieusement, peuvent être dévoilés devant la population et que celles-ci risquent d'être soulevées. Vous savez, je ne vois pas là où nous pouvons personnellement, particulièrement, nous tergiverser sur cette question. Vous êtes journaliste. Je vous remets des temps un fait pratiquement simple. Il y a quelques mois passés, les ennemis de la République qui ne s'effacent jamais dans leur entreprise maléfique, en multipliant des embûches sur le parcours de notre peuple et en créant de nouvelles coalitions de la mort qu'on appelle abusivement alternative pour la défense du peuple. Vous savez, on fait couler le sang des innocents. Heureusement pour nous, face à la détermination du gouvernement, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale, du respect des traités et des accords internationaux. Vous savez, on a eu à maîtriser ces gens-là. Il y a eu la réorganisation, la discipline et la modernisation. Toutes ces tentatives n'ont été qu'un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire on n'a pas réussi. Je me dis aujourd'hui, il faut féliciter notre armée. Il faut féliciter notre police. Soit interpellé, lui, l'honorable Juvénal Mounoboué, qui est là. Je crois qu'il nous suit calmement. Est-ce qu'il faut chaque semaine, chaque mois, chaque année, interpeller les ministres de défense, même là où il n'y a pas de
même oui, là où il n'y a pas de est-ce que vous avez eu accès à Cyril, s'il vous plaît?
Comment on ne peut pas interpeller?
Oui, Cyril, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'entendre, Cyril?
On doit interpeller les ministres, c'est ce que j'ai dit.
Oui, Cyril, on doit quand même s'entendre. Quand vous écoutez, vous avez l'interaction dans votre téléphone, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire ces rapports? Vous êtes assez fourni dans les analyses chaque fois que nous faisons les débats. Est-ce que vous avez eu l'accès à ces rapports, même quelques bribes, pour savoir quel est le problème qui a été soulevé exactement?
Oui, je l'ai lu, monsieur, j'ai dit.
Voilà. Mais c'est le
problème du contrôle parlementaire.
Mais il ne s'agit pas.
De défense et sécurité.
Voilà. Il
mais
je ne crois pas.
En Afrique, particulièrement en RDC. Pourquoi le cas particulier dans notre pays?
Non, on n'a pas dit. Je ne crois pas.
Pourquoi le Congo doit être particulièrement?
Voilà. Cyril, si vous l'avez lu le rapport n'a pas dit particulièrement. Je ne crois pas. Le rapport a fait, on a fait un rapport sur l'ensemble de l'Afrique, de l'Égypte en Afrique du Sud. Et nous sommes en RDC parce que la RDC est aussi concernée dans cet échange. C'est comme ça que nous faisons les débats à chaque pays. La Côte d'Ivoire a son problème, le Burundi a ses problèmes. Ça a été soulevé comme ça. Mais si nous revenons dans les débats, Cyril, si on peut s'entendre.
Si
on peut s'entendre, Cyril, s'il vous plaît.
Je dis, s'il vous plaît. Okay, d'accord.
J'ai la parole, vous pouvez m'entendre. Vous pouvez m'entendre, j'ai la parole.
Achevez ce que j'aurais à
dire tout à l'heure. Mais vous ne m'avez pas écouté. Écoutez d'abord ma relance, comme ça vous allez achever. J'ai dit ceci, nous n'allons pas désorienter les débats. Nous ne faisons pas les débats sur l'efficacité ni la manière dont l'armée travaille et n'est pas capable de souterrain. Mais nous ne disons pas ça. Mais nous disons ceci tout simplement. Et par le fait que les députés ne soient pas à mesure d'exercer les contrôles sur les dépenses qui doivent se faire, la manière dont les finances, les budgets consacrés au secteur des défenses doivent être exécutés, cela peut occasionner, comme l'a dit le rapport, des cas de corruption qui, par contre, peuvent avoir des influences négatives sur la prestation sur terrain. Je crois que c'est dans cet angle qu'on reste, mais on n'a pas organisé les débats sur l'armée qui est forte, qui est faible, qui n'est pas capable de travailler. Je ne crois pas qu'on ait organisé les débats dans ce sens.
Oui, je vous comprends bien, je dis, si tel est le cas, je peux tomber d'accord avec vous, mais il y a un problème. Vous savez, à chaque moment, il n'y a que des procès d'intention qui se font, etc., au sein de notre pays. Parce que, oui, aujourd'hui, engendrer la corruption, etc., comme vous êtes en train de voir énumérer, oui, je crois que ce n'est pas possible. Alors, ça ne sera pas possible au sein de notre pays, parce que pourquoi ? Parce qu'il y a une positivité sur cet aspect au niveau de notre pays. Donc, il n'y aura même pas la question relative à la corruption ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est ça que moi, je ne veux pas que le cas du Congo soit un cas particulier pour dire que...
Merci beaucoup, merci Cyril, merci Cyril. Alors là, vous n'avez pas vraiment lu les rapports. Si vous avez lu les rapports sont très positifs sur beaucoup de choses qui ont été faites en RDC, des procès qui ont été tenus, des gens qui ont été punis pour des cas de corruption, des marchés publics opaques. Si vous avez lu les rapports, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été positivées dans ces rapports des Transparences internationales qui concernent bien sûr l'ensemble de l'Afrique. Mais nous avons ouvert ce débat pour la RDC. Merci beaucoup, Cyril Japet. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment dégager des pistes et des solutions pour rendre le travail parlementaire assez plus efficace dans ces domaines, parce qu'on estime, comme le notre invité venait de le dire, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont sensibles, qui touchent à la vie de la nation, ça ne peut pas être débattu sur la place publique, mais quand il s'agit par exemple du budget, des fonds, des salaires, des achats, des passations des marchés, on estime que selon nos lois, ce sont des questions qui doivent être débattues en public. Les parlementaires doivent être informés pour savoir combien d'argent on a affecté à telle activité, ça a été utilisé comment, et cela peut rendre le travail plus efficace sur le terrain. Comment on peut y arriver? C'est ça un peu l'orientation de notre échange, Japet.
Merci beaucoup. Je remercie d'abord Radio Okapi d'avoir élevé cette question très importante relative au contrôle parlementaire dans le secteur de la sécurité et de la défense. Et je salue aussi l'honorable Juvenal Mounoubo, qui me reconnaîtra bien sûr. J'estime de mon point de vue que les rapports, en établissant la relation entre les degrés de contrôle parlementaire et la situation sur terrain en matière de sécurité et de défense, mais je ne trouve pas cette corrélation-là, car pour moi, les parlements n'interviennent pas dans la chaîne des commandements. Et c'est au nom d'un principe élémentaire, la séparation de pouvoir. Et étant donné que les parlements n'interviennent pas dans la chaîne des commandements, je ne peux pas arriver à la conclusion que les déficits de contrôle parlementaire dans le secteur de la sécurité puissent avoir une incidence dans l'action sur terrain de nos forces armées. Par ailleurs, j'estime que les rapports nous éloignent de vraies causes de conflits sur le terrain. Les vraies causes de conflits sont à rechercher dans le sillage de ressources naturelles du Congo et aussi dans l'incompétence de certains chefs militaires qui détournent la ration militaire, par exemple. Cela a été prouvé. Mais dans un contexte plus général, je dirais que malgré la densité de la production législative, malgré l'autonomie financière dont vit le Parlement, les parlements demeurent en fait un tigre sur papier dans tous les domaines, en matière de contrôle. Il y a une très forte soumission de la majorité parlementaire à l'autorité politique du président de la République et à l'influence du gouvernement qui l'empêche d'appuyer les initiatives tendant à sanctionner l'activité de l'exécutif. Parlementaire. L'honorable Mounoubo l'a dit. Il a souhaité le fait que, s'étant retrouvé dans une commission avec les autres députés membres de l'Assemblée nationale, ceux-là lui ont fait remarquer que ces questions-là ne pouvaient pas être mises sur la scène publique. Or, les secrets de défense ne couvrent pas toutes les questions militaires. Il y a des aspects, effectivement, qui doivent, au nom du secret de défense, être réglé au sein de l'armée par ceux qui participent à la chaîne de commandement, notamment au niveau du chef de l'État aussi.
Mm-hmm.
Mais pour les autres domaines qui échappent au secret défense, mais qui concernent le domaine d'organisation générale, les questions d'intérêt public, celles-là doivent être connues du public parce que cela participe à l'enracinement de l'état des droits, mm-hmm. à la transparence dans la procédure. Et c'est très important de ce point de vue-là. Mais seulement je continue à persister à croire que établir le lien entre les contrôles parlementaires et les déficits de l'action de nos forces de sécurité sur sont deux choses différentes.
Mais en fait, pour vous retenir peut-être 45 secondes le temps que l'invité se prépare à répondre à toutes ses préoccupations, mais le fait que vous, quand vous relevez quand même qu'il y a, si il y a des cas avérés de détournement des rations, on rappelle encore qu'il y a eu des condamnations, vous avez suivi Radio Capi pour des cas de détournement des rations militaires, est-ce que vous estimez qu'il y a des questions d'ordre général, des dépenses, des budgets, des recrutements, que ces questions peuvent être débattues publiquement, et dès lors que au niveau de ceux qui ont ceux qui exécutent se rendent compte qu'il n'y a pas un contrôle, ils n'ont pas la ce qu'on appelle la redevabilité, est-ce que cela ne peut pas effectivement avoir comme corollaire l'inefficacité du travail souterrain? Si par exemple les fonds alloués à tel domaine par le gouvernement approuvé au niveau de l'Assemblée nationale, ce fonds ne soit pas alloué et que le Parlement ne puisse pas exercer les contrôles, c'est que les gestionnaires du fonds peuvent se sentir libres de l'utiliser comme il faut, et quand le fonds n'est pas utilisé pour la cause, et cela peut apporter de l'efficacité souterraine, j'appelle en bref.
Oui, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que je soulignais dans l'autre manche de mon intervention. J'ai clairement dit que la question du secret défense ne couvrait pas toutes les questions militaires. Mais concernant par exemple la gestion de fonds affectés aux forces armées, sur ces points-là, les parlements en tant qu'autorité budgétaire peut intervenir, peut exercer le contrôle parlementaire. Mais alors, c'est la question de l'effectivité de ces contrôles parlementaires. Puisqu'on se rend compte, comme je l'ai dit, il y a une très forte soumission à la majorité parlementaire. On a fragilisé complètement l'action du Parlement, et avec ça, il ne faut pas penser. Puisque, après avoir contrôlé, l'autre membre consiste à sanctionner. Mais qui va sanctionner? C'est les pouvoirs judiciaires. Donc, la question est globale. Elle touche aux trois pouvoirs de l'État. Et au quatrième pouvoir invisible, l'opinion publique, qui doit intervenir. Et même dans les débats sur les commissions parlementaires, la commission défense et sécurité, on peut faire la participation citoyenne, parce que ce sont des questions qui intéressent la protection de l'État, et c'est également une bonne chose de faire intervenir le citoyen, qui donnerait un point de vue de la situation réelle qu'ils sont en train de vivre sur terrain.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Et d'ailleurs, c'est ça même le souci dans ces rapports, c'est de pouvoir associer la société civile dans toutes ces réflexions qui touchent à ces questions. Dieudonné, vous êtes à Arou, vous gardez la ligne, ainsi que José qui est à Goma. 081-890-6031, si vous avez besoin de vous joindre en direct.
Au Capito, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit, et le samedi, Megamix de 19h à minuit. Au Capito, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs.
Honorable Juvenal Mounoubo, vous avez suivi les uns et les autres. Il y a d'abord la question du travail de l'efficacité qu'Espiril estime qu'il énonce, ça va être un faux débat. Mais j'appelle, si c'est quand même que les questions d'ordre général pouvaient être portées dans le débat, l'opinion publique, au niveau des commissions, on pouvait les discuter. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment qu'on habitue la population à toutes ces questions qui touchent également à la gestion quotidienne de leur sécurité. Et ça ne peut passer effectivement que par vous, au niveau du Parlement, mais aussi que la société civile soit associé à votre point de vue par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure.
Oui, c'est ça l'appropriation qu'on veut, le suivi des politiques publiques. Et je vais saluer ici la pertinence des interventions des auditeurs. Monsieur Cyril, qui nous a appelé à partir du Bandundu. Oui. Monsieur Cyril, je pense que l'efficacité d'une action de contrôle, c'est lorsqu'on aboutit à des sanctions. C'est à ce niveau-là. C'est vrai, on fait parfois venir les ministres, mais beaucoup plus en commission, hein, audition en commission, mais pas assez souvent en plénière, hein, comme pour la raison que je venais d'évoquer ici, les caractères secrets de ce secteur. Mais il n'y a pas eu de sanctions, hein, et pourtant il y avait moyen de sanctionner. Par exemple, à l'époque où les M23 facilement s'est emparé de Goma, un siège d'une semaine dans la ville de Goma, et bien c'était le moment où les parlementaires devaient sanctionner. Hein. C'est là qu'il y avait la gestion de l'armée, surtout parce que je suis d'accord avec M. Jaffet lorsqu'il fait la différence entre le moyen, la mise en condition
et les opérations. C'est vrai que nous, députés, on n'a pas accès au contrôle des opérations, du commandement, mais nous, nous devons contrôler si les moyens ont été mis à la disposition de l'armée. Donc, c'est question du budget, le budget qui est d'ailleurs fourni des contribuables, ce sont les citoyens congolais qui alimentent leur armée à partir des impôts, ainsi de suite. Donc, nous devons contrôler, parce que c'est l'argent du contribuable. Et donc, il y a des moments où nous devions sanctionner les membres du gouvernement. Nous devons sanctionner les ministres, mais on ne l'a pas fait, pour des considérations politiques. C'est ce que je regrette, en fait. Pourquoi ? Parce qu'entre députés, il y a eu une forte hostilité des collègues qui, pratiquement, ont défendu les ministres. Ils se sont rangés du côté du ministre. Ils ont plaidé pour le ministre. Et pourtant, c'est des collègues, lorsque vous voyez dans leur circonscription, c'est là où il y avait les sièges des rébellions, des groupes armés. Donc, moi, je ne sais pas comprendre comment quelqu'un son territoire, par exemple, est occupé par des groupes armés, 50% ou 60%, que ces députés n'aient pas le moindre réflexe de demander des comptes aux membres du gouvernement qui gère le secteur de sécurité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne faut pas seulement le faire en pensant à la réélection, mais il faut le faire, c'est notre mission, c'est notre mandat qu'on a reçu du peuple. Et lorsqu'il dit que c'est un procès d'état, lorsqu'il a voulu relativiser un peu en disant que la situation n'est pas si grave, là il est au Bandundu. Je sais qu'au Bandundu, s'il y a des cas d'insécurité, c'est l'insécurité urbaine. Mais à l'est, il y a des vastes étendues qui échappent au contrôle de l'État. La restauration de l'autorité de l'État, c'est le grand défi à l'est. Et ça a été rappelé par dans l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est le tout premier engagement que le gouvernement a pris de restaurer l'autorité de l'État. Et donc, il faut faire des progrès dans ce sens-là. Je crois aussi que la reprise de la collaboration avec la MONUSCO ne devrait pas tarder sur le plan opérationnel. C'est vrai que ça a été décidé que l'armée congolaise devait reprendre ses opérations avec la MONUSCO contre les groupes armés, contre la FDLR et les autres, mais ce n'est pas encore dans l'effectivité lorsqu'on vérifie la situation sur terrain. Alors, il y a une autre lecture, celle de Alain. Alain qui nous a appelé de Kinshasa. Je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, hier, il a parlé de la vision. Il nous faut d'abord une vision de l'armée. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme armée et comment nous comptons y arriver? Quels sont les moyens que nous mettons à la disposition de cette armée? Les menaces. Quelles sont les menaces actuelles?
Et ce genre de questions, c'est discuté au sein du Parlement. On l'élargit avec la société civile, la formation politique de proposer à l'exécutif des pistes de solutions pour effectivement dégager cette vision et cette conception.
En France, par exemple, la commission de sécurité des forces armées joue un grand rôle. Et c'est une commission qui est en contact direct avec les gouvernements. Par rapport à la question des secrets défense, ailleurs, il y a des instructions qui délimitent, circonscrivent les secrets défense. Ça, j'ai vu ça en France. Pourquoi ne pas penser le faire ici aussi? On essaie de cerner, parce que tout ne devait pas relever du secret. Si tout relève du secret, eh bien, on est bloqué, on n'agit plus. Eh bien, il faut un document. Ailleurs, on appelle ça livre blanc. Dans le livre blanc de la défense, il y a la vision de l'armée qu'on a, ou qu'on veut créer, ou qu'on veut restructurer. Il y a les menaces, l'inventaire des menaces actuelles, des menaces futures, parce qu'on peut aussi, moyennant une lecture prospective, on peut savoir quelles seraient les menaces dans les prochains jours. Il faut savoir. Prenons le cas du Congo, qui a un château d'eau, et les pays qui nous environnent n'ont pas d'eau. Il faut savoir qu'à un moment donné, le manque d'eau dans les pays d'Afrique pourrait constituer pour nous aussi une menace, il faut le savoir. Et bien, il y a des petits signes comme ça, des Soudanais qui installent leur drapeau en province, avec la province orientale, des Rwandais qui font des incursions. Tout ça, il faut voir, et il faut avoir non seulement une diplomatie d'anticipation, et une politique pour tout dire. Le gouvernement doit, parce que gouverner, c'est prévoir, avoir la forte capacité d'anticiper et de prévoir au cas où on serait attendu d'être en mesure de se défendre.
Mais Cyril évoquait tout à l'heure qu'il y a plusieurs fois, il ne faudrait pas que le ministre de la Défense soit interpellé au Parlement tous les jours, mais au sein quand même de ces commissions. Est-ce que vous avez un travail permanent, régulier, comme vous l'avez dit, avec le gouvernement pour discuter de ces questions qui touchent à la défense et à ces domaines de sécurité?
Nous avons des occasions, c'est des occasions rares en fait, où le ministre, je crois que ça s'est déjà fait en tout cas pas plus de deux fois, où le ministre de la Défense était auditionné par notre commission, il n'y a même pas très longtemps. Et là, c'est l'audition en commission. Vous voyez donc, comme je vous disais, c'est d'abord leur agenda, ils disent toujours que leur agenda est chargé, ils le disent souvent. Et donc ce n'est pas facile pour autant. On se bat, c'est une bataille perpétuelle que nous menons au sein de la commission de défense et au sein du Parlement, surtout pour des questions qui regardent la sécurité. Donc il y a un travail qui se fait, mais moi je ne suis pas satisfait de ce travail, bien que moi-même je participe dans ce travail-là. Pourquoi ? Parce que l'efficacité du contrôle, c'est lorsqu'on est à mesure aussi de sanctionner. Et que la personne contrôlée se rend compte qu'à tout moment, elle peut écoper d'une sanction sur le plan politique. Mais on n'est pas encore arrivé là. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de blocages.
Voilà, c'est ça même le souci, hein, comme on le disait tout à l'heure à Cyril de Transparency, c'est de voir ces genres de questions être débattues au sein des commissions avec le pouvoir exécutif sans beaucoup
et par rapport à la société civile, je voudrais ajouter une chose
rapidement avant qu'on écoute d'autres auditeurs.
Que c'est possible d'associer la société civile. Pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, la société civile congolaise se spécialise aussi. Il y a par exemple un réseau que nous avions lancé, quand je parle de la société civile, le réseau pour la réforme du secteur sécurité.
Oui.
Et d'ailleurs, la loi sur la police, nous avons participé dans des réflexions pour préparer la vision de la police et même l'avant-projet de loi organique, on a donné des idées. Pourquoi ne pas associer une telle structure ou les délégués d'une telle structure dans les suivis même de la réforme de l'armée? Hein, on n'est pas obligé de leur parler de tout le secret militaire, mais la démocratie oblige à ce qu'ils soient à tout le moins associés. Donc il faudrait mettre un peu d'eau dans les vins et diminuant un tout petit peu ces caractères trop secrets, finalement, qui dorment.
Dieudonné, vous êtes à Roux. Bonjour, Dieudonné.
Bonjour, Major Kapi. C'est bien Dieudonné, Jombe, à Paris, territoire d'Aru de Kandé.
On vous écoute, Dieudonné.
Moi, vraiment, j'ai quelques préoccupations à vous poser. Une. Le Parlement, quand même, c'est son rôle à jouer. Maintenant, qu'est-ce qui empêche le Parlement de ne pas mettre à jour tous les dangers possibles qui peuvent quand même abolir ce système qui est dans notre territoire? Deux, concernant la sécurité encore, surtout à l'est de chez nous ici, nous constatons partout il y a des barrières, la poubelle de biais, vraiment la source de ravitaillement pour ces militaires. Finalement, qu'est-ce que les gens veulent au Congo? Trois, quelle va être la petite réflexion, la petite solution que notre exécutif nous donne d'abord pour que nous soyons rassurés?
On voulait avoir des assurances d'abord en ce qui concerne pourquoi qu'est-ce qui empêche le Parlement de pouvoir faire ce travail exactement. L'invité venait de les dire et voulait que l'invité nous dise quelles sont aujourd'hui les garanties hein, par rapport à l'efficacité dans ces domaines de sécurité pour votre sécurité, si vous pouvez reprendre les termes là où vous êtes à Arou. Merci beaucoup, Dieudonné. Professeur Ignace, vous êtes à Polésie. Bonjour.
Merci pour l'invitation. La parole, je veux dire, moi je pense que il y a le principe de redevabilité. Et au lieu de ce principe-là, je pense que toutes les institutions qui sont en train de chapeauter ce pays, et en particulier l'Assemblée, et la droite, elle, de pénétrer, n'est-ce pas, tout ce qui concerne la gestion quotidienne de différents secteurs de la vie de la population. Bien sûr, il y a des secrets d'État, mais ce qui est vrai, il faudrait que l'Assemblée pénètre, parce que pénètre cet aspect de l'armée, bien qu'étant une société secrète, parce que les contribuables donnent leur argent. Cet argent est utilisé et dépensé. Donc, il ne s'agit pas de fermer totalement le secteur de l'armée. On ne va pas, bien sûr, pénétrer les opérations sur terrain. Mais voilà pourquoi il faudrait qu'on puisse associer la société civile. Parce que moi, je pense que les députés restent deux fois longtemps à Kinshasa, mais la société civile est constituée de ramifications qui se retrouvent même au niveau de la base, même au niveau des points où l'insécurité est en train de battre record. Donc, je trouve qu'il est nécessaire que la société civile travaille étroitement en collaboration avec les députés, mais que ceux-ci puissent se taper par rapport au contrôle qu'ils doivent effectuer. Ils y ont le droit en tant qu'institution importante de la nation. Il y a des choses qu'ils peuvent garder, mais ils sont en droit et ils sont obligés de pénétrer comment est la gestion de l'armée et des poches d'insécurité pour rendre compte aux citoyens. Donc, ils ne doivent pas se sentir limités à un certain endroit. Ils doivent pénétrer et rejoindre à l'extérieur terrain, voir ce qui est en train de se faire, parce qu'eux ne peuvent pas divulguer les tout. Voilà à peu près ce que moi je veux dire.
Merci beaucoup, professeur Ignace. D'ailleurs, dans le rapport Transparency, insiste beaucoup sur le fait que les parlements puissent, doivent en principe recevoir les informations complètes dette sur les dépenses relatives pour éviter qu'il y ait des suspicions, qu'on dise par exemple que des hauts gradés de l'armée sont impliqués par exemple dans des activités commerciales dans le secteur minier, comme notre ami tout à l'heure disait que le problème aujourd'hui c'est l'exploitation minière, hein, mais cette exploitation minière, si les députés font ce travail de contrôle, ils peuvent dégager aujourd'hui à travers des contrôles parlementaires pour savoir qui est impliqué à exploiter quoi et de quelle manière on peut arriver à s'en sortir. Merci beaucoup. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Thiro, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute, Maître Adrien.
Oui, merci Thiro de l'opportunité que vous m'accordez. Je pense que je commence d'abord par saluer le rapport de Transparencia. C'est un rapport vraiment vrai, à moins qu'on soit de mauvaise foi pour ne pas reconnaître la véracité de ce rapport. Et moi, je voudrais maintenant entendre la réaction de nos autorités, parce que est-ce que faudra-t-il qu'une organisation internationale publie un rapport pour qu'il soit accepté, parce que ce que Transparencia a dit, et c'est ce que nous ici, nous ne cessons de monter au créneau pour dénoncer cela. On ne cesse de dire que les domaines de la sécurité, la défense y compris, c'est un domaine vraiment très, très sensible. Hein? On ne peut pas vraiment chercher à donc les boucs émissaires. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le traitement, comment est-ce que nos députés se comportent? C'est tout simplement du clientélisme. Et puis, donc, l'invité vous a dit que nous invitons chaque fois le ministre de la Défense, nous nous intéressons, et lui-même a reconnu qu'il n'est pas satisfait parce qu'il n'y a pas de sanctions. Est-ce que peut-on dire à ces cas-là que c'est un contrôle? Non, ce n'est pas un contrôle. Et puis, deuxièmement, pourquoi nous n'anticipons pas des choses? Il a encore déploré le drapeau soudanais et qu'il venait d'être élevé sous les sols congolais. Moi, Pierrot, je pense qu'il n'y a que les Congolais ou les autorités congolaises qui peuvent accepter ça. Sous d'autres cieux, c'est inacceptable. D'ailleurs, avec cette information, on devrait apprendre soit des démissions, soit des limogeages. Parce qu'on se rend compte que les Congolais ne sont pas sécurisés. Un malheur peut frapper les Congolais ici par les agresseurs extérieurs. Et ces gens-là rentrent tranquillement. Les Congolais restent en train de s'entretuer pour dire que qui a commis ça, qui a fait ça. C'est comme ça que moi je suis en train de dire, si l'invité est tout à fait d'accord avec ce rapport-là, j'aimerais lui proposer quelques pistes de solutions. Premièrement, je lui dirais que il faut revoir d'abord la modalité de contrôle. Il faut enlever le clientélisme parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils seront jugés par tout ce qu'ils sont en train de faire à l'hémicycle. Et donc, les Congolais ne sont plus encore des petits-enfants pour qu'ils puissent encore se dire que non, nous allons encore renouveler notre confiance sur ces gens-là qui ne veulent pas parler au nom et pour le compte de la population, mais qui traitent leur propre amitié, leur propre intérêt. Deuxièmement, j'aimerais maintenant lui demander, parce que lui n'est pas convaincu de ce que lui et ses collègues font comme contrôle. Pourquoi il ne démissionne pas de cette commission? Voilà Pierrot, mes propositions.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez qu'il faut bannir le clientélisme quand il s'agit du contrôle parlementaire et dans ces domaines. Et vous auriez même souhaité qu'on revoie les modalités de contrôle parlementaire, et particulièrement pour notre invité, vous lui demandez, mais lui n'est pas convaincu de ce qui se passe au niveau de la commission de défense et sécurité, la sous-commission forces armées. Pourquoi ne pas quitter cette commission si le travail qui vous faites n'est pas convaincant? Et on va écouter Madame Joséphine qui est à Boston rapidement avant que notre invité ne puisse réagir à cette préoccupation. Joséphine, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Radio Cassia, hein. Bonjour à notre invité. Je veux dire ceci, hein. Quand on était enfant, à l'école, on nous disait, je crois, un mois avant que les inspecteurs vont venir inspecter l'école. Alors, on voyait l'enseignant, même le directeur de l'école, on va nettoyer les classes. Les salles de classe, l'enseignant va nous donner beaucoup de devoirs, beaucoup. Donc, il y aura un petit changement pendant le un mois là, avant que l'inspecteur vienne. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. Au Congo, il n'y a pas d'inspection. les inspections n'existent plus. Vous savez, quand il y a un rapport, hein, le premier rapport, par exemple, quand le premier ministre est passé premier ministre, il donne le premier rapport. C'est la base déjà. C'est-à-dire que vous donnez le rapport, et puis après le rapport, il doit y avoir l'audit. Hein, c'est ça même l'inspection. À partir de l'audit là, à moins que vous soyez vraiment parfait, il y aura toujours des failles. Quand il y a des failles, on doit toujours sanctionner. Mais au Congo, on n'a jamais sanctionné. Alors ça dit que si on n'a jamais sanctionné personne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des inspections, qu'on ne fait pas d'audit. Ce qui est grave, c'est le cas de la sécurité du pays. Le Congo a été, il a connu de l'invasion. Donc le pouvoir a été pris par putsch, comme on dit, par le militaire. Donc il y a eu des militaires qui sont venus s'ajouter aux autres militaires qui étaient sur place. Alors moi je crois que le problème de sécurité, ça devait être une priorité, mes chers amis. Ça devait être une priorité. Quand on dit qu'on veut faire l'inspection, on veut appeler le ministre de sécurité et défense, ce n'est pas pour... On ne lui demande pas de nous dire le secret ou quoi. Le ministre est là, il va nous parler de peut-être de l'argent. Combien d'argent il a eu à partir du premier ministre? Est-ce que l'argent qu'il a eu, c'était suffisant pour la sécurité du pays? Mes chers amis, on tue les Congolais chaque jour à l'Est. Et ça n'interpelle personne. Ça n'interpelle ni le gouvernement. C'est la population qui pleure. Je me rappelle quand le président est allé au Katanga. Je l'ai vu abattu. Le président est allé chercher... Il est allé chercher les gens qui ont l'argent, les riches. Donc, pour lui, c'est comme s'il a donné beaucoup d'argent. Et il ne voit pas des riches.
Le résultat, en fait, de travailler. Oui. En fait, c'est un problème de parallélisme où les chefs de l'État faisaient des parallélismes entre les degrés de pauvreté et ceux qui ont beaucoup de moyens dans les Katanga. Mais vous estimez, madame, que cette question des sécurités devait concerner aussi l'audit et l'interpellation, mais sans passer par évoquer les questions des défenses, des secrets, mais rester au moins sur ce qui doit être fait, comment les dépenses sont exécutées, combien d'argent on investit, les budgets, tout ça. Honorable Monoubo, placez un mot rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui vous a posé cette question de Kananga. Il y a encore des auditeurs en ligne, on ne sait pas si on pourra bientôt les prendre, mais placez un mot rapidement, on va revenir aux auditeurs qui sont en ligne.
Oui, en fait, il y a la recommandation de M. Adrien qui me dit que si ça ne bouge pas, vous n'avez qu'à
quitter la commission.
Démissionner. En fait, je n'ai pas encore démissionné, je l'aurais déjà fait, évidemment. Je n'ai pas encore quitté la commission, pourquoi? Parce que je reste convaincu que l'effort que je fournis, ça fait quand même bouger de quelques millimètres ces processus. Et il faut aussi savoir que, par exemple, la chute du M23 au Nord Kivu il y a 2 ans, ça ne s'est pas opéré par génération spontanée, parce qu'on pense que c'est arrivé comme ça, que les réveils avec des vaillants commandants, ça s'est fait comme si c'était dans une sorte de génération spontanée. En fait, il faut savoir que si l'armée s'est réveillée, c'est qu'il y a eu des rappels, il y a eu un suivi, notamment par les députés membres de la commission de défense et de sécurité. Vous avez vu, vous avez entendu, il y a eu même le caucus des députés du Nord Kivu qui avait fait à la tête honorable Fondeur, on a fait des déclarations et pas seulement une seule. Et donc, il ne faut pas aussi penser que rien ne se fait dans le Parlement. C'est vrai, il y a à boire, à manger dans le Parlement. Mais il faut quand même savoir qu'il y a de ces députés-là qui se battent et qui restent convaincus que même pour les quelques mois qui restent, parce que ça, il faut toujours rappeler que notre mandat se termine en novembre, même pour nos députés nationaux. Et qu'en novembre, l'élection qui sera organisée en novembre, c'est le même jour l'élection du président de la République et l'élection des députés nationaux. Parce que ça, l'élection des députés nationaux, ça va être difficile d'installer un nouveau gouvernement ici des élections de
novembre. Maître Pascal, vous êtes à Dungu, dommage pour Dieu merci, c'est une partie remise. Maître Pascal, est-ce que vous pouvez placer un mot dans 20 secondes parce qu'il faudrait là que l'invité puisse conclure cet échange?
Oui, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé même aux prolongations. Moi, comme j'ai l'habitude de jouer aux prolongations, je vais juste entamer sur la sécurité, donc la défense sécurité, parce qu'il y avait encore à parler là, à ce qui concerne le contrôle parlementaire. Mais j'allais vite directement pour la donc, défense sécuritaire. Monsieur Gilles, j'ai toujours l'habitude de dire que non, notre gouvernement devait d'abord arranger la vie sociale, voire même de militaires. Nous, ceux qui nous sommes ici à Dongo, nous avons les problèmes qui nous bitent à ce qui concerne le problème de rebelles ougandais de LRA, y compris les éleveurs Mbororo. Mais il y a des militaires qui se sacrifient, allaient même traquer, mais derrière ça, on les arrête. On vient de défendre ici, mais donc les militaires qui gardent la population, qui allait défendre la population, quelques jours après, s'ils attaquent les ennemis, on les arrête. C'est ça qui fait aussi la défaillance de militaires, que les militaires puissent
se voilà. Et là, vous avez insisté beaucoup, maître Pascal, sur l'amélioration des conditions sociaux, bien sûr, sociales des militaires. On revient à vous, honorable Juvenal Monobo, parce que là, on a quelques minutes pour conclure cet échange. En fait, quand même, selon ces rapports, c'est de voir les parlements assez impliqués dans ces questions de défense sécuritaire, en ce qui concerne les contrôles, poser des questions, mener des audits pour être sûr que les gens demain puissent être sanctionnés et que cela ait comme conséquence l'efficacité de troupes, l'efficacité du service sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 50 secondes?
Oui, en 50 secondes, retenir, c'est que la situation, elle est encore préoccupante à l'Est, en fait. Et il y a beaucoup de groupes armés. Il y a un groupe d'études qui a dénombré 70 groupes armés en Nord-Kivu. C'est le groupe d'études sur le Congo. Et à l'heure où nous parlons, il y a la panique, par exemple, dans un village de Walikale qui s'appelle Kalembe. Pourquoi ? Parce qu'un groupe armé avant-hier a kidnappé 5 personnes. Ils sont portés disparus. Eh bien, il faut beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Moi, je crois que il faudrait pas que les relations entre gouvernement et parlement soient des relations un peu comme chien et chat. En fait, le contrôle, ce n'est pas quand on exerce un contrôle, on veut améliorer. Et le gouvernement devrait être réceptif. Et on devrait diminuer un peu les caractères trop secrets de notre secteur de sécurité. Il faut renforcer la collaboration, évidemment, avec la société civile. Il faut renforcer la collaboration, évidemment, avec ceux-là qui sont venus nous aider. Je parle ici de la MONUSCO, pour que cette collaboration soit porteuse de fruits. On ne saurait pas comprendre continuellement que là où il existe l'armée, la police, les Nations Unies, qu'il y ait des gens qui meurent. Donc il faut que cette coopération soit efficace et impacte positivement.
Merci beaucoup, honorable général Mounougo Moubi. Vous êtes rapporteur de la sous-commission Forces armées au sein de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Je rappelle encore que vous êtes le secrétaire politique national chargé des relations extérieures et de la coopération internationale au sein de l'Union pour la nation congolaise, en partie politique de l'opposition. Merci à toute l'équipe des producteurs de paroles aux auditeurs. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. Pour le moment, nous vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.